Question. Tu veux dire qu'elles se sont toutes deux réincarnées dans d'autres corps? Réponse. Ce serait une erreur que d'assumer que la réincarnation, le retour à un autre corps physique, était la seule option qui leur était offerte. Question. Quelles sont les autres options? Réponse. En vérité, tout ce qu'elles veulent. J'ai déjà expliqué dans ce livre ce qui se produit après ce que vous appelez votre mort. Certaines âmes sentent qu'elles aimeraient en connaître bien davantage et se retrouvent, entre guillemets, à l'école, tandis que d'autres âmes, que vous appelez les vieilles âmes, leur enseignent. Et que leur enseignent-elles? Qu'elles n'ont rien à apprendre, qu'elles n'ont jamais rien eu à apprendre, que tout ce qu'elles ont jamais eu à faire, c'était de se rappeler. Se rappeler qui est ce qu'elles sont vraiment. On leur enseigne que l'expérience de qui elles sont s'acquiert dans le fait de le mettre en action, dans le fait de l'être. On le leur rappelle en leur montrant gentiment. D'autres âmes se sont déjà rappelées cela au moment où elles sont arrivées, ou peu après leur arrivée, de l'autre côté. J'utilise à présent le langage qui vous est familier en parlant dans votre jargon pour, autant que possible, ne pas nous embarrasser des mots. Ces âmes peuvent alors chercher la joie immédiate de faire l'expérience d'elles-mêmes en tant que tout ce qu'elles veulent être. Elles peuvent choisir parmi les millions, les trillions d'aspects de moi et choisir d'en faire l'expérience sur place et sur le champ. Certaines peuvent aussi choisir de retourner à la forme physique pour le faire. Question. N'importe quelle forme physique? Réponse. N'importe laquelle. Question. Il est donc vrai que les âmes peuvent retourner sous la forme d'animaux, que Dieu pourrait être une vache et que les vaches sont vraiment sacrées? Oh la vache! Réponse. Question. Désolé. Réponse. Tu as eu toute une vie pour développer une carrière d'humoriste. D'ailleurs, puisque je regarde ta vie, tu as fait un assez bon travail. Question. Tchaboum! C'était un coup sur le rebord de la caisse claire. Si j'avais une cymbale ici, je te donnerais un coup de cymbale. Réponse. Merci, merci. Mais vraiment. La réponse à la question fondamentale que tu poses, une âme peut-elle retourner sous la forme d'un animal? C'est oui, bien sûr. La véritable question est la suivante. Le ferait-elle? La réponse est sans doute pas. Question. Les animaux ont-ils une âme? Réponse. Quiconque a jamais regardé un animal dans les yeux connaît déjà la réponse à cela. Question. Alors comment saurais-je si ce n'est pas ma grand-mère revenue sous la forme de mon chat? Réponse. Le processus dont nous parlons ici, c'est l'évolution. L'auto-création est l'évolution. Et l'évolution fonctionne dans un sens, vers le haut, toujours vers le haut. Le plus grand désir de l'âme est de faire l'expérience d'aspects de plus en plus élevés d'elle-même. Ainsi, elle cherche à monter et non à descendre dans l'échelle de l'évolution, jusqu'à ce qu'elle fasse l'expérience de ce qu'elle a appelé le nirvana, l'unité totale avec le tout, c'est-à-dire avec moi. Question. Mais si l'âme désire des expériences de plus en plus élevées d'elle-même, pourquoi se donnerait-elle la peine de revenir sur Terre en tant qu'être humain? Cela ne peut certainement pas être un pas vers le haut. Réponse. Si l'âme retourne à la forme humaine, c'est toujours dans le but de poursuivre l'expérience et ainsi d'évoluer davantage. Il y a plusieurs niveaux d'évolution observables et démontrés chez les humains. On pourrait revenir pendant plusieurs vies, plusieurs centaines de vies, et continuer d'évoluer vers le haut. Mais le mouvement vers le haut, le plus grandiose désir de l'âme, ne s'atteint pas par un retour à une forme de vie inférieure. Ainsi, un tel retour ne se produit pas, pas avant que l'âme n'atteigne l'ultime réunion avec tout ce qui est. Question. Cela doit signifier que de nouvelles âmes arrivent tous les jours dans notre système en prenant des formes de vie inférieures? Réponse. Non. Chaque âme qui a jamais été créée l'a été en même temps. Nous sommes tous ici et maintenant. Mais maintenant, comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'une âme, une part de moi, atteint l'ultime accomplissement, elle a l'option de recommencer, de tout oublier, pour tout se rappeler à nouveau et se recréer à neuf une fois de plus. Ainsi, Dieu continue de refaire l'expérience de lui-même. Les âmes peuvent également choisir de se recycler, entre guillemets, à travers une forme de vie particulière, à un certain niveau, aussi souvent qu'elles le désirent. Sans réincarnation, sans la capacité de retourner à une forme physique, l'âme aurait à accomplir tout ce qu'elle cherche à accomplir en une seule vie, ce qui est 1 milliard de fois plus court qu'un clin d'œil sur l'horloge cosmique. Alors oui, bien sûr, la réincarnation est un fait. Elle est réelle, elle a un but et elle est parfaite. Question. D'accord, mais il y a une chose à propos de laquelle je suis confus. Tu as dit que le temps n'existe pas, que toutes les choses sont en train de se produire maintenant. Est-ce exact ? Réponse, oui. Question. Et ensuite, tu as sous-entendu, comme dans le tome 2, que tu as traité ce sujet en détail, que nous existons tout le temps à des niveaux différents ou à divers points dans le continuum espace-temps. Réponse, c'est vrai. Question. D'accord, mais maintenant, voici où ça devient dément. Si l'un des moi du continuum espace-temps meurt, puis revient ici en tant qu'une autre personne, alors, qui suis-je ? Je devrais exister en tant que deux personnes à la fois. Et si je continuais de faire cela durant toute l'éternité, et tu dis que je le fais, alors je suis 100 personnes à la fois, 1000, 1 million, 1 million de versions d'un million de gens, 1 million de points du continuum espace-temps. Réponse, oui. Question. Je ne comprends pas cela. Mon esprit ne peut pas saisir cela. Réponse. En fait, tu t'en es bien tiré. C'est là un concept très avancé. Question. Mais si c'est vrai, alors je, la part de moi qui est immortelle, doit être en train d'évoluer d'un milliard de façons différentes, sous 1 milliard de formes diverses, à 1 milliard de points donnés de la roue cosmique, dans l'éternel instant présent. Réponse. Encore juste, c'est exactement ce que je fais. Question. Non. Je disais que c'est ce que je dois être en train de faire. Réponse. Encore juste, c'est ce que je viens de dire. Question. Non, j'ai dit. Réponse. Je sais ce que tu as dit. Et c'est exactement ce que je t'ai dit. La confusion tient au fait que tu crois encore que nous sommes plus d'un ici. Question. Ce n'est pas le cas. Réponse. Nous n'avons jamais été plus d'un ici. Jamais. Viens-tu tout juste de t'en apercevoir ? Question. Tu veux dire que je viens de me parler à moi-même, ici ? Réponse. Quelque chose comme ça. Question. Tu veux dire que tu n'es pas Dieu ? Réponse. Ce n'est pas ce que j'ai affirmé. Question. Tu veux dire que tu es Dieu ? Réponse. C'est ce que j'ai dit. Question. Mais si tu es Dieu et tu es moi, et que je suis toi, alors, je suis Dieu ? Réponse. Tu es Dieu, oui, c'est juste, tu piges totalement. Question. Mais je ne suis pas seulement Dieu, je suis aussi toutes les autres. Réponse. Oui. Question. Mais cela veut-il dire que personne et rien d'autre n'existe à part moi ? Réponse. N'ai-je pas dit, mon père et moi ne faisons qu'un ? Question. Oui, mais... Réponse. Et n'ai-je pas affirmé aussi, nous ne faisons tous qu'un ? Question. Oui. Mais je ne savais pas que tu l'entendais littéralement. Je croyais que tu parlais au sens figuré. Je croyais que c'était davantage un énoncé philosophique et non l'affirmation d'un fait. Réponse. C'est l'énoncé d'un fait. Nous ne faisons tous qu'un. C'est ce qu'on entend par « chaque fois que vous ferez quelque chose au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le ferez. » Comprends-tu maintenant ? Question. Oui. Réponse. Ah, enfin, tout de même. Question. Pardonne-moi de remettre cela en question, mais quand je suis avec d'autres, ma conjointe ou mes enfants, j'ai l'impression d'être séparé d'eux, qu'ils sont autres que moi. Réponse. La conscience est une chose merveilleuse. Elle peut se diviser en 1000 morceaux, 1 million, 1 million multiplié par 1 million. Je me suis divisé en un nombre infini de morceaux, afin que chaque morceau de moi puisse se regarder et voir la merveille de qui et de ce que je suis. Question. Mais pourquoi ai-je traversé cette période d'oubli, d'incrédulité ? Et même maintenant, je n'y crois pas totalement, je suis encore accroché à l'oubli. Réponse. Ne sois pas si dur envers toi-même, cela fait partie du processus. C'est bien si cela se produit ainsi. Question. Alors pourquoi me dis-tu tout cela maintenant ? Réponse. Parce que tu commençais à ne pas t'amuser. La vie commençait à ne plus être joyeuse. Tu commençais à être totalement pris dans le processus que tu oubliais que ce n'était qu'un processus. Alors tu m'as appelé. Tu m'as demandé d'aller vers toi, de t'aider à comprendre, de te montrer la vérité divine, de te révéler le plus grand secret. Le secret que tu t'es caché à toi-même. Le secret de qui tu es. Alors, je l'ai fait. Une fois de plus, on t'a amené à te rappeler. est-ce que ce sera important? Cela changera-t-il ta façon d'agir demain? Cela t'incitera-t-il à voir les choses différemment ce soir? Vas-tu à présent guérir les douleurs des blessés, calmer l'anxiété des individus apeurés, répondre aux besoins des pauvres, célébrer la magnificence des accomplis et voir la vision de moi partout? Ce dernier appel de la vérité transformera-t-il ta vie et te permettra-t-il de changer la vie des autres? Ou bien retourneras-tu à l'oubli? Retomberas-tu dans l'égoïsme? Retourneras-tu, pour y résider à nouveau, à la petitesse de ce que tu croyais être avant cet éveil? Qu'est-ce que ce sera